16h38. C'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. La meilleure musique de la business, vous allez l'entendre tout le week-end à Boulevard. Ça débute tôt avec Audrey. Le Rock and Chill à compter de 7h demain et dimanche.
J'ai des cadeaux. Je vais répéter, ça arrive jamais.
Des cadeaux et des surprises.
Et voilà.
Toute la fin de semaine, des billets à donner pour le show de Snoop Dogg Yo au Centre Vidéotron. Écoutez Dan Caron, écoutez Thomas. Écoutez nos boys en fin de journée également avec le volume à planche Reg et Matt Marcotte. Parlant de Matt Marcotte, émission spéciale ce soir, 19h du Bonhomme 7h mettant en vedette Nirvana et les bandes qui se sont inspirées de cette vague-là, de ce raz-de-marée. On souligne aujourd'hui les 30 ans du décès tragique du leader de Nirvana, Kurt Cobain, à l'âge trop jeune de 27 ans. Dans la circulation, Audrey.
Ça se règle pas. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est toujours aussi difficile. Toujours direction Est, mais dans le coin de Beauport ou la rue Seigneuriale, là, en fait, entre Beauréal et Seigneurial, c'est assez congestionné. Encore quelques problèmes sur Robert Bourassa Nord, entre Charest et la capitale. L'entrée du pont Pierre-Laporte, c'est assez complexe aussi. Là, que vous soyez sur Duplessis ou Henri IV Sud en direction du pont, la congestion commence à peu près à Quatre-Bourgeois. Et la 20 direction Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniatak, ça se passe. Il y a aussi un peu de trafic dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle sur Henri IV Nord précisément. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021.
D'ailleurs, revenons au fleuve parce que le service de police de la Ville de Québec qui nous confirme qu'à cause du débordement dans le secteur de la rue Dalhousie, on ferme le secteur. En fait, on ferme Dalhousie entre le boulevard Champlain. Le boulevard Champlain, entre Côte de la Montagne et la Côte Gilmore.
OK, fait qu'on est vraiment rendu avec de l'eau dans ce coin-là.
On est rendu avec de l'eau dans le
coin. Ouais, il y avait encore du monde de parquer dans ce coin-là aussi, j'imagine.
Ben, c'est sûr.
Ouais, pas le fun.
Puis là, il n'y avait pas eu d'avertissement. T'sais, souvent, on a des ondes de tempête qui font que je comprends pas pourquoi il reste parqué là, mais dans ce cas-ci, ça risque de compliquer les déplacements.
Si vous êtes des auditeurs de longue date de Gravel dans le retour, vous savez que nous ne sommes pas des créatures d'habitude. Par contre, le vendredi, on a quelques habitués et quelques habituels. L'un d'entre eux, c'est Pierre-Aud, notre chroniqueur vedette, notre ami Pierre-Aud, qui est du côté de la chapelle ardente de son frère aujourd'hui, Paul-Aud. Vous avez probablement vu ça du côté des médias télévisés. Je veux dire, tout le monde est là-bas là, depuis l'heure du midi à peu près. Les acteurs des Boys, beaucoup de personnalités sportives, beaucoup de personnalités médiatiques qui ont côtoyé Paul-Aud, qui ont côtoyé son frère, qui ont côtoyé la famille.
Les gens du Canadien de Montréal qui sont là aussi.
Évidemment, donc on envoie tout notre amour et toutes nos pensées à notre ami Pierre-Aud en espérant que dans les prochaines semaines, il réussisse à prendre un peu de repos au terme de la saison de la Ligue nationale de hockey. Tous les vendredis depuis des années, Pierre-Aud s'installe avec nous autres pour partir sa fin de semaine à lui aussi. Et c'est le fun parler de tout avec Pierre. J'aime parler de musique avec Pierre. J'aime parler de son beat de vie. J'aime parler du Canadien. Et Pierre, lui, aime parler de F1. À ce niveau-là, comment dire, j'ai besoin d'un peu d'aide. Et à chaque fois que j'ai besoin d'aide, sans même avoir à lever la main ou le petit doigt, j'ai quelqu'un ici qui décide de me faire passer pour un génie de la F1 et qui me fournit énormément d'informations, énormément de bonnes questions, ce qui fait en sorte que Pierre est épaté là, par mes questions avisées, pleines de culture et d'érudition. Mais ça, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute à notre collègue multipolyvalent qui a coupé ses vacances aujourd'hui pour venir nous parler de F1, sa passion, et faire ça devant ses parents sont en vacances au Québec présentement et qui sont partis de la France et qui sont en studio avec nous autres, et j'ai le poil droit de ses bras. Je trouve ça cute à mort. Thomas Perrin, salut.
Salut, salut.
Comment ça va?
Bien, bien. Moi, c'est drôle, tu me fais venir pour de la F1, pas pour parler de mon beat de vie, ça t'intéresse
pas. Tes goûts musicaux, rien à foutre.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ton beat de vie, il m'énerve, là, 60 livres de perdu en l'espace de quelques mois. Félicitations, mais
merci,
en même
merci.
Temps, ça fait chier un peu. Thomas, c'est du côté du Japon qu'on est en fin de semaine. Puis globalement, là, un amateur de F1, quand il n'y a pas de compétition puis que c'est tout le temps le même qui gagne, où est-ce que vous allez chercher votre fun?
C'est compliqué. je le dis souvent dans le matin, la technique, c'est de mettre un post-it sur le premier.
Oui.
C'est, on essaye de cacher le premier, puis de se dire, OK, bah, y a une course qui se passe derrière ou
ouais.
de quoi de même. Puis aussi, moi, je suis un fan de F1 en général et pas juste de, d'une écurie. Fait que je vais aimer voir une petite écurie qui est en train de remonter au cours de la saison. C'est intéressant de le regarder petit à petit, puis de voir comment est-ce qu'elle évolue. Fait qu'il y a toujours de quoi regarder derrière. Mais là, le côté positif, c'est qu'en ce moment, bah, le vainqueur, le dernier Grand Prix, c'était pas Max Verstappen. Fait que ça brasse un petit peu les cartes.
OK. T'es-tu un gars d'écurie ou t'es un gars de pilote?
Bonne question. Ben, comme je te disais, j'ai du mal à être plus orienté vers qui que ce soit. C'est sûr qu'au niveau écurie, j'aime bien Alpine parce que c'est écurie française, fait qu'il y a un petit côté chauvin forcément. Et sinon, je vais suivre quelques pilotes qui vont me plaire par leur style de pilotage. Par exemple, Max Verstappen, même si j'ai du mal avec la domination, j'adore son style de pilotage. C'est quelqu'un de très agressif et c'est quelque chose, ça rajoute quelque chose sur la grille. C'est comme un Fernando Alonso. Quand on le voit piloter, même si on ne sait pas qui c'est dans la monoplace, on sait que c'est quelqu'un qui a du caractère. Mm-hmm. Et ça, ça rajoute quelque chose. Donc évidemment, je m'y intéresse.
Résumé des épisodes précédents, pourquoi Verstappen n'a pas gagné le dernier Grand Prix?
Dernier Grand Prix, alors c'est un melting pot d'affaires. D'abord, ils ont eu un gros problème technique avec le frein arrière droit, si je me souviens bien, qui était resté bloqué. Donc évidemment, grosse surchauffe et abandon dès le troisième tour.
Okay.
Donc évidemment, y en a un qui abandonne, tout le monde se rue pour essayer d'avoir la place derrière. Et ça a été Carlos Sainz qui l'a eu. Faut quand même noter Carlos Sainz dans les... pas les deux dernières années, mais mettons les 20-25 derniers Grands Prix, c'est le seul qui a gagné d'autres Grands Prix que Max Verstappen. Il a gagné deux fois, à Singapour l'année dernière et cette année en Australie, et il n'a pas de baquet pour l'année prochaine. Et ça, je trouve ça assez phénoménal qu'un pilote qui est le seul qui a gagné autre que Max Verstappen ces temps-ci n'ait pas de baquet.
Mais avec tout le jeu de chaises musicales qu'on connaît déjà à l'avance pour la prochaine saison, lui, il n'y a pas de place. Là.
Ben, on sait que ça va se faire. En fait, il y a très peu de chances que ça ne se fasse pas. En plus, Carlos Sainz, pour certains, ça parle peut-être. Son père, c'est Carlos Sainz senior, comme on l'appelle, qui faisait beaucoup de rallyes à l'époque. Donc, évidemment, il a beaucoup de contacts à droite, à gauche, entre autres avec Audi, qui est la marque Volkswagen,
oui.
pour laquelle Carlos Sainz senior roulait en rallye. Donc, on sait que Audi qui s'en vient en F1, c'est forcément une connexion qui va pouvoir se faire, au moins pour 2026.
Ça a dû être excitant que ce soit pas Max Verstappen qui gagne pour une fois.
Oui, puis non. Et c'est là que ça devient intéressant pour le Grand Prix d'en fin de semaine.
C'est parce qu'il faut que tu l'enlèves pour que quelqu'un d'autre gagne.
Ouais, c'est ça. Ouais,
mais... pendant le Grand Prix d'Australie, il y avait moyen d'aller challenger parce que la Red Bull n'était pas dans ses meilleurs jours. On a vu qu'ils avaient tendance à surchauffer les pneus. Ça, qu'est-ce que ça fait une F1 qui surchauffe les pneus? Ça fait qu'elle va très bien fonctionner en qualification, elle va très bien fonctionner sur les premiers tours, mais au bout de 5, 10, 15 tours, en fait, elle va avoir beaucoup de mal à garder son rythme. Mmh. C'est un peu comme si c'était la seule monoplace qui roulait sous la pluie alors que tout le monde roule sur le sec. Donc ça devient super compliqué pour le pilote de manager. Et l'année dernière, on le voyait beaucoup chez Ferrari. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de mal à revenir. Et là, c'était la première fois qu'on le voyait chez Red Bull. Donc c'est sûr que le circuit au Japon est beaucoup plus adapté pour Red Bull, mais il y a toujours la possibilité que la porte soit ouverte, que ce soit pour Ferrari ou pour McLaren.
C'est la dernière chose que tu m'as dit, juste avant qu'on ouvre les micros pour partir de notre conversation, que le Grand Prix du Japon avait des trucs uniques qui faisaient en sorte que c'était un des Grands Prix le fun à regarder, qu'on soit un maniaque de F1 ou pas. Pourquoi?
C'est un Grand Prix qui a vraiment marqué l'histoire. On remonte en... Déjà, le circuit a été fondé en 87 par le boss de chez Honda qui voulait un circuit d'essai, ni plus ni moins. Et en fait, le circuit a été tellement bon qu'il a fini par être adapté pour la F1. Et il est devenu tellement important et tellement mythique qu'il est resté dans le calendrier. Ça a été souvent le Grand Prix qui finissait la saison ou l'avant-dernier, ce qui fait qu'on a vu beaucoup de champions du monde, que ce soit des Ayrton Senna, des Alain Prost, se faire couronner à Suzuka. Donc il y a vraiment un côté très historique et très grandiose avec le Grand Prix de Suzuka. Et on sait qu'on a vu par exemple l'accrochage en 90 et en 91 avec Prost et Senna qui ont fini par aller dans l'échappatoire parce qu'il n'y en avait aucun des deux qui voulait lâcher. Donc il y a vraiment un côté mythique avec ce circuit. Et en plus de ça, on est sur un circuit qui est très typé virage rapide, ça peut des fois empêcher d'avoir des dépassements, mais par contre ça donne des shots, des vues qui sont vraiment magnifiques. On voit les monoplaces qui roulent très vite dans des virages à 250 des fois. On sait qu'on est à la limite de ce qu'on est capable de faire et on sait que si les monoplaces s'effleurent, elles s'en vont toutes les deux dans le gravier et ça peut même être grave. Et ça donne, c'est triste, hein, on veut pas ça, mais ça donne un côté démentiel quand on sait qu'il y a la possibilité en réalité.
Là, avec le décalage horaire, est-ce qu'il y a eu des séances? Est-ce qu'il y a eu des essais libres aujourd'hui?
Il y a eu les séances d'essais libres qui sont faits dans la nuit. Là,
okay.
Justement, on a la qualification qui se fait à 2h du matin, le Grand Prix qui se fait à 1h. Pour résumer tout ça, et puis moi, c'est comme ça que je le fais en général, mettez-vous à 8h du matin devant RDS, il y a la rediffusion, lâchez les réseaux sociaux, levez-vous tranquillement, c'est le mieux, moi c'est exactement ce que je vais faire,
ah,
parce
oui.
que ça vous
per...
ben oui, parce que la nuit c'est le fun, mais à un moment donné, il faut dormir.
Donc, ah oui?
Mais t'es capable de couper tes réseaux sociaux, c'est drôle parce qu'on le fait tous à notre façon, là. Des fois c'est pour le hockey, moi des fois je le fais pour la WWE puis la lutte professionnelle, mais t'es capable de le faire, tous tes organes d'information de F1, on ferme ça, on regarde pas. On regarde le Grand Prix, puis après ça, on rouvre toutes les.
Ouais, ben le côté positif, c'est que, étant donné que c'est à 8h du matin, on peut se lever à 7, pas regarder le sel de la matinée, puis directement à 8h se mettre à regarder, que ce soit qualification ou Grand Prix. Fait que c'est ça. Votre rendez-vous, là, si vous ne voulez pas vous lever dans la nuit, c'est 8h à RDS, le samedi comme le dimanche, pour qualification et course.
J'ouvre une parenthèse. Je te trouve bon en tabarnouche, parce que si j'avais mes deux parents à un mètre de ma tronche pendant que je fais de la radio, premièrement, je ne serais pas capable. Hey, il est bon en tabarnouche, hein? Ah, votre fils est extraordinaire.
C'est pas un hasard.
Non, c'est non.
pas.
Son,
dit c'est pas
son
un
papa
hasard.
Qui dit que c'est pas un
hey,
hasard.
Ils ont la même humilité, les deux. En plus, c'est hot, là.
Non, non, mais je vais en profiter pendant qu'ils sont là. Votre fils Thomas est incroyable. Il est polyvalent. C'est toujours le premier qui lève la main pour rendre un service. Il est capable de nous régler tous les problèmes qu'on a, que ce soit au niveau technique, au niveau de trouver l'écho sur mon microphone, au niveau de la musique, au niveau de quoi que ce soit. C'est un gars passionné. C'est un homme charmant à côtoyer. Vous avez fait du très beau travail. Voilà.
Tom est un peu rouge.
J'espère.
Un peu, hein?
Donc, Tom, qui tu penses qui va décrocher la pole en fin de semaine? Est-ce qu'on revient à la normale?
Ben, on risque de revenir à la normale parce qu'ils amènent quand même un nouveau fond plat du côté de chez Red Bull. Fait que ça peut faire beaucoup de différence, comme pas du tout. Ça, on le saura que pendant les qualifs. Oui, je pense que Max Verstappen va avoir la P1. Par contre, ce qui va être intéressant de regarder, c'est le rythme des McLaren derrière. Pour resituer l'année dernière, en début de saison, McLaren n'était pas du tout là. Et pourtant, au Japon, ils ont fait 2 et 3. Ça a été Max Verstappen qui a gagné, mais ils se sont retrouvés tous les deux sur le podium. Avec une McLaren qui a encore évolué cette année, mais on a peut-être une chance qu'un Norris ou un Piastri aille titiller un peu Max Verstappen au long de la course s'il y a des problèmes pendant le déroulé.
Je suis curieux parce qu'on a eu cette conversation-là avec Pierre-Houd à quelques occasions. La série sur Netflix,
oui.
Drive to Survive, est-ce que tu fais partie des partisans de cette série-là ou des détracteurs, étant donné que tu es un passionné de F1?
Ben, en fait, j'ai été les deux.
Okay.
Au début, j'ai été partisan.
Oui.
Au milieu, saison 3-4, j'ai été plus détracteur. Et là, j'arrive vers quelque chose où je suis plus partisan parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de romance et qu'on commence à voir des affaires qu'on ne verrait pas en temps normal. Il y a ce petit côté. C'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a forcément de la scénarisation là-dedans. Mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir à droite, à gauche. Donc, j'aime quand même bien. En tout cas, ce qui se fait dans les dernières saisons est intéressant. Ce qui se faisait au début est génial. Au milieu, entre les deux, on sent que c'était très géré par les écuries. Donc, ça reste... À chaque fois qu'il y a une saison qui sort, je la regarde, je suis obligé, ça c'est sûr. Mais après, je me fais toujours mon avis dessus.
Normal. Hey, Thomas, tu as interrompu tes vacances ce matin pour m'envoyer un texto pour savoir si Pierre allait être avec nous autres parce que tu voulais nous faire des questions de F1. Puis j'ai comme sauté sur l'opportunité quand tu m'as dit « Hey, mes parents sont dans le coin ». Ben j'ai dit « Ben viens faire de la radio avec nous autres, t'amènes tes parents ». Je suis vraiment content que tu aies fait le déplacement. Puis merci beaucoup.
Ben merci à toi de l'opportunité, en fait.
Bravo, vous avez fait du travail extraordinaire avec ce jeune homme sensationnel. Hey, il est 16h51. On a de la circulation, Audrey.
Ben, c'est vraiment le bordel. Capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa, la voie de gauche, qui est partiellement entravée pour une panne. Puis en ce moment, sur la capitale, là, direction est, entre Henri IV et Seigneurial, dans le coin de Beauport. Fait que ça dure un méchant bout. Là, c'est totalement au ralenti. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, entre Wilfrid Hamel et la capitale, il y a quelques problèmes. Henri IV sud, la congestion commence à la hauteur de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, c'est à la hauteur de chemin Sainte-Foy que ça commence à congestionner. Henri IV Nord, c'est entre Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle qui a un certain ralentissement. Et la 20 Ouest, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata.
Champlain qui est fermé aussi, hein, entre Côte de la Montagne et Côte Gilmore. Le fleuve a débordé.
Il me semble que c'est tard pour annoncer un show au Centre Vidéotron, mais on va le prendre pareil en cette fin de journée.
Ça a été annoncé sur le site officiel de Billy Idol. C'est le journal qui a mis la main là-dessus.
Ah, vendu la mèche.
Il a vendu la mèche lui-même, mais c'est le lundi 19 août prochain que Billy Idol va venir faire son tour au Centre Vidéotron depuis 2008 qu'il n'a pas mis les pieds à Québec.
J'ai pas vu Billy Idol, mais à chaque fois qu'il y a eu des spectacles dans la région de Québec, ce qu'on m'a dit, c'est que Billy Idol n'a pas pris une ride. Et il a rajeuni son band autour de lui, ce qui fait en sorte que le show est encore excellent.
C'est sur ma bucket list.
Oh yeah!
Fait que demande-moi pas si la semaine prochaine je m'achète des billets, c'est assez évident.
C'est-tu Rebel Yell, ta toune, ou je sais pas...
Moi, c'est mon album préféré de tous les albums de Billy Idol. Ma toune préférée...
Il y a White Wedding.
Eyes Without a Face est quand même pas pire, je te dirais.
Tu nous as parlé de Eyes Without a Face. Dans ses autres gros classiques, t'as sa reprise de Money Money. Mm-hmm. Pas jouer ma toune encore.
Ah non?
Non. Il reste un hit.
Flesh for Fantasy, tu l'avais pas joué, hein?
Flesh for Fantasy, ouais.
Dancing with Myself, tu l'as joué tantôt pas?
L'as-tu joué?
Non, tu l'as pas joué.
Ouais, je l'ai oublié.
Hot in the City, que t'as pas joué.
J'ai encore des souvenirs du vidéoclip de Flesh for Fantasy. Ça ici, hop, t'as peu, trompette tune. Flesh, Flesh for Fantasy. We want... Oh, j'attire l'attention d'Audrey Pinchot sur le fait que il y a une version acoustique qui existe de Rebel Yell. Est-ce que tu le savais?
Non, aucune idée.
Est-ce que tu as le goût d'écouter, à savoir, est-ce que c'est bon ou si c'est un accident de voiture?
Totalement.
En tant qu'experte de l'acoustique.
Ben, OK, il y a une guitare acoustique, là, mais...
Mais je la verrais pas nécessairement dans le rock and
roll. Non, absolument
non,
pas.
Non, il l'a pas ralenti beaucoup.
Je sais pas comment dire ça.
Elle est pas chill.
Ouais, t'as encore ouais, exactement, elle manque de chill.
Je pense qu'il y a rien qu'une vitesse sur Billy Idol. tu peux pas faire autrement. Donc, Billy Idol au Centre Vidéotron, ouais. Y a-tu des premières parties d'annoncer?
J'ai rien à date, outre le fait que les billets vont être mis en vente la semaine prochaine. Il y aura une pré-vente, entre autres, les abonnés des infolettes de Centre Vidéotron, Live Nation et compagnie. Ça va être le 11, tandis que le lendemain, à 10h, ça va être les mise en vente de billets officiels. Fait que Billy Idol qui va faire Montréal, qui va faire Québec. Une belle visite au Centre Vidéotron du monsieur de 68 ans qui ne les fait toujours pas.
Une autre belle opportunité pour, entre autres, les auditeurs de Boulevard 102.1. Et d'ailleurs, parlant de belles opportunités pour les auditeurs...
Ah ben!
Et pas rien!
Je comprends pas. C'est qui, eux?
Le rock, la balle, le rock and ball. Les portes s'ouvrent de nouveau. BLVD.fm, section concours. On écoute Blink. Et Adam Song.